aprendí que mi mané con todo vengo ni a niñe. Con el dume bura ma fe bua ma infine coñala. Con el dume solo fe solo infine coñala. Con el dume alama fe alama infine coñala.
Buenos días. Poner en relación los conceptos de educación y de ciudadanía es un reto importante que nos habéis lanzado y que os agradecemos. Vamos a intentar ofreceros una visión particular de este reto, la nuestra, o más bien, tantas visiones como personas participamos en este proyecto. En el contexto internacional, la UNESCO, ante el hecho de que el mundo está cada vez más interconectado, pero que, sin embargo, la paz y el desarrollo sostenibles siguen estando amenazados por las violaciones de derechos humanos, las desigualdades y la pobreza, considera que la respuesta debe ser una educación para la ciudadanía mundial. Y para ello pone a disposición de los educandos de todas las edades los medios para reflexionar acerca de estos desafíos. Para la UNESCO, la educación para la ciudadanía mundial tiene como objetivo inculcar los valores, las actitudes y los comportamientos que constituyen la base de una ciudadanía mundial responsable y que son la creatividad, la innovación y el compromiso a favor de la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por su parte, la Unión Europea considera que en Europa actualmente los problemas socioeconómicos, el extremismo violento y la falta de confianza en los procesos democráticos son algunas de las mayores amenazas a la paz, la democracia, la libertad y la tolerancia, y cree que la educación y la formación pueden ayudar a contrarrestar todas estas amenazas, fomentando un respeto mutuo y promoviendo los valores fundamentales de las sociedades democráticas. Por todo ello, la educación para la ciudadanía ha despertado grandes expectativas en toda Europa, con el convencimiento de que debe desempeñar un papel importante en este sentido. La educación para la ciudadanía se ha convertido en una materia para trabajarla en las escuelas de todos los países de la Unión. Así, la Unión Europea, partiendo de que entiende la educación para la ciudadanía como un concepto fluido, porque la idea de lo que es y de lo que deben ser sus objetivos varía de un país a otro y evoluciona a lo largo del tiempo, la define como, abro comillas, la educación para la ciudadanía es una materia que tiene por objeto promover la coexistencia armoniosa y fomentar el desarrollo mutuamente beneficioso de las personas y las comunidades en que viven. En las sociedades democráticas, la educación para la ciudadanía ayuda al alumnado a convertirse en ciudadanos y ciudadanas activos, informados y responsables, con la disposición y la capacidad necesarias para asumir responsabilidades en su propio nombre y en el de la comunidad, tanto a nivel nacional como europeo como internacional. Cierro comillas. En el caso de España, la asignatura Educación para la Ciudadanía se establece como materia curricular con la Ley Orgánica de Educación de 2006 y en su desarrollo normativo posterior se concreta con el título de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, para la etapa de secundaria obligatoria. La propia ley dice en su preámbulo: la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la construcción o constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. No obstante, la inclusión de esta materia en el currículo escolar siempre ha ido acompañada en nuestro país de un intenso debate social.
Bonjour. Mettre en relation les concepts d'éducation et de citoyenneté est un défi important que vous nous avez lancé et dont nous vous remercions. Nous allons essayer de vous proposer une vision particulière de ces défis, la nôtre, ou plutôt autant des visions que des personnes participant à ces projets. Dans le contexte international, l'UNESCO, face au fait que le monde est de plus en plus interconnecté, mais que, en moins, la paix et le développement durable continuent d'être menacés par les violations des droits humains, les inégalités et la pauvreté considèrent que la réponse doit être une éducation à la citoyenneté mondiale, et pour cela, il met à disposition des apprenants des TUH les moyens de réfléchir à ces enjeux. Pour l'UNESCO, l'éducation à la citoyenneté mondiale vise à inculquer les valeurs, attitudes et comportements qui constituent les points de départ d'une citoyenneté mondiale responsable et qui sont la créativité, l'innovation et l'engagement en faveur de la paix, des droits humains et du développement durable. De son côté, l'Union européenne considère qu'en Europe aujourd'hui, les problèmes socio-économiques, l'extrémisme violent et le manque de confiance dans les processus démocratiques sont parmi les plus grandes menaces pour la paix, la démocratie, la liberté et la tolérance. Et pense que l'éducation et la formation peuvent contribuer à contrer ces menaces, favoriser les respects mutuels et promouvoir les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Pour toutes ces raisons, l'éducation à la citoyenneté a suscité des grandes attentes dans toute l'Europe, convaincue qu'elle doit jouer un rôle important à cet égard. L'éducation à la citoyenneté est devenue un sujet à travailler dans les écoles de tous les pays de l'Union. L'Union européenne commence par comprendre l'éducation à la citoyenneté comme un concept fluide, car l'idée de ce qu'elle est et de ce que devraient être ses objectifs varie d'un pays à l'autre et évolue dans le temps. En même temps, la définit ainsi. L'éducation à la citoyenneté est un sujet qui vise à promouvoir une coexistence harmonieuse et à favoriser le développement mutuel bénéfique des personnes et des communautés dans lesquelles elles vivent. Dans les sociétés démocratiques, l'éducation à la citoyenneté aide les étudiants à devenir des citoyens actifs, informés et responsables avec la volonté et la capacité nécessaires à assumer des responsabilités en leur nom et au nom de la communauté au niveau national, européen et international. Dans le cas de l'Espagne, la matière éducation à la citoyenneté est établie en tant que matière du programme d'études dans la loi organique de l'éducation de 2006 et dans son développement normatif ultérieur. Elle est spécifiée avec le titre « L'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme » pour les collèges. La loi elle-même dit, dans son préambule, l'éducation est le moyen le plus approprié pour garantir l'exercice d'une citoyenneté démocratique, responsable, libre et critique, indispensable à la constitution des sociétés avancées, dynamiques et justes. Cependant, l'inclusion de ces matières dans les programmes scolaires s'est toujours accompagnée dans notre pays d'un intense débat des sociétés.
Volen que digues si es negro o si es blanc. Volen la nit de la vida. vida. La volen buida, no volen vore dubtar. Volen quietud i la volen indefinida. Volen la seguretat. Ser de este món és un poc complicat. Ser i no ser-ho de forma normal. Baix del meu llit tonelades de tristesa. En queda bé la disfressa de sant? De què estàs fugint quan t'acuses? Les teues paraules on van? Quan no quede res tampoc hi haurà excuses. Tornen les hòsties com un boomerang. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra. Totes les contradiccions i les cançons. Ventiladors que esguiten merda, merda pa tots. Deixa que el cante la carta, tenim de tot, de qualitat normaleta. Li pose tot el carinyo, baixa ixe foc, volen la base ben feta. Si a mi se'n talla la salsa, un nou bufo, mai menjaré de calent. He de mantindre esta farsa, qui paga mana, sóc jo, són eixes clients. Volen paraules com armes, dignes i plenes, que obrigues cor i cartera. Volen metàfores i actes, drama i teatre, volen titella i trinxera. Volen que passes l'examen que ells posen, volen ser jutges i autoritat. Volen que dones la pasta que guanyes. Diguem-ho clar, volem manar. Deixa que traga l'aigua a subhasta. Ja prou d'escriure i pensar a la carta. Deixa que diga el que pensa el dimoni dormit. Deixa que em lleve el vestit. Somiar en feres dormides, frases domades, líriques subordinades, plats ben calents, postres gelats. Volien merda i tenen raval. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra. Totes les contradiccions i les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda pa tots.
Entre los innumerables temas que surgen al poner en relación los términos educación y ciudadanía, también está el de cómo una sociedad, y también cómo una escuela, resuelve sus conflictos y enseña a resolver a sus ciudadanos y a sus ciudadanas sus propios conflictos. Es decir, a través de qué procedimientos lo hace y también qué procedimientos de entre los posibles contribuyen en mayor medida a la formación de una ciudadanía responsable e inclusiva. En este sentido, queremos destacar el papel fundamental que desarrolla la mediación como proceso de resolución de conflictos. La mediación es un proceso en el que las personas que están en conflicto son ayudadas por una tercera persona para resolverlo. Pero a diferencia, por ejemplo, del juicio, entre las características de la mediación, y de ahí le viene su enorme potencial como motor de cambio social, es que se trata de un proceso voluntario y de que son las partes las que resuelven el conflicto con la ayuda de la persona mediadora, pero que ésta no soluciona el conflicto en ningún caso, sino que se limita a ayudar a las partes para que lo resuelvan por sí mismas. Por eso posee un enorme potencial pedagógico, porque tiene mucho que aportar a la formación integral de las personas, tanto en el ámbito personal como en el social, ya que contribuye en gran medida al desarrollo de competencias sociales y ciudadanas, por cuanto las partes deben pasar por sí mismas por este proceso, es decir, no pueden delegar en nadie, ni abogados, abogadas, representantes, terceras personas, y además deben ser ellas mismas las que sean capaces de llegar a un acuerdo entre ellas. En este sentido, la formación en mediación y el uso de la mediación en los centros educativos como proceso de resolución de conflictos entre los miembros de cualquier sector de la comunidad educativa, familias, profesorado, alumnado, contribuye, entre otros aspectos, a conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos Humanos en la creación de un sistema de valores propio, aprender a cooperar y a convivir, tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas, comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas, como son la democracia, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la corresponsabilidad, la participación y la ciudadanía, practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver conflictos, etcétera. Si la mediación consigue estos cambios a nivel intrapersonal e interpersonal, también lo consigue a nivel intragrupal e intergrupal, fomentando así la cohesión social y, por lo tanto, se convierte en un motor de cambio a largo plazo en la consecución de sociedades más justas, cohesionadas, inclusivas e igualitarias. Por todo ello y para concluir, defendemos el derecho de todas las personas, también de los niños y de las niñas en el ámbito educativo, a ser formados en mediación y de poder elegir la mediación como uno de los procesos posibles para la resolución de sus conflictos junto a otros procesos posibles, como podrían ser el juicio o el arbitraje, por ejemplo.
Parmi les innombrables sujets qui se posent quand on met en relation les termes éducation et citoyenneté, il y a aussi comment une société et une école résolvent ces conflits et apprennent à ses citoyens à résoudre leurs propres conflits, c'est-à-dire à travers quelles procédures ils le font, et aussi quelles procédures parmi elles contribuent le plus à la formation d'une citoyenneté responsable et inclusive. Dans ces ans, nous voulons souligner le rôle principal joué par la médiation en tant que processus de résolution des conflits. La médiation est un processus dans lequel les personnes en conflit sont aidées par une tertiaire personne pour le résoudre. Mais contrairement, par exemple, au procès, entre les caractéristiques de la médiation, et d'où vient son énorme potentiel en tant que moteur de changement social, c'est qu'il s'agit d'un processus volontaire et les parties sont qui résolvent le conflit avec l'aide du médiateur, mais cette personne ne résout en aucun cas le conflit. Elle se limite à aider les parties à les résoudre par elles-mêmes. Pour cette raison, il a un énorme potentiel pédagogique, car il a beaucoup à apporter à la formation complète des personnes, tant dans les sphères personnelles que sociales, car il contribue grandement au développement des compétences sociales et civiques, puisque les parties doivent passer par elles-mêmes. Par ces processus, il ne peut déléguer à personne, ni avocat, ni représentant, ni tiers, et ces doivent être eux qui sont capables de parvenir à un accord entre eux. En ce sens, la formation à la médiation et l'utilisation de la médiation dans les écoles comme processus de résolution des conflits entre les membres de tout secteur de la communauté éducative, famille, enseignants, élèves, contribue entre autres aspects à connaître, valoriser et utiliser des systèmes de valeurs tels que la déclaration des droits de l'homme dans la création de leur propre système de valeurs, apprendre à coopérer et à vivre ensemble, prendre des décisions et en assumer la responsabilité, comprendre et mettre en pratique les valeurs des sociétés démocratiques telles que la démocratie, la liberté, l'égalité, la société, solidarité, la co-responsabilité, la participation et la citoyenneté, pratiquer le dialogue et la négociation pour parvenir à des accords afin de résoudre les conflits, etc. Si la médiation réalise ce changement au niveau intrapersonnel et interpersonnel, elle réalise également au niveau intra-groupe et intergroupe, favorisant la cohésion sociale et par conséquent elle devient moteur de changement à long terme dans la réalisation des sociétés plus justes, plus cohésives, égalitaires. Par conséquent, nous défendons le droit de toutes les personnes, compris les garçons et les filles dans les domaines éducatifs, d'être formés à la médiation et de pouvoir choisir la médiation comme un des processus possibles pour la résolution de leurs conflits avec d'autres processus possibles, comme par exemple le procès ou l'arbitrage.
Tot això que tens, que quan queda per fer és pitjor que fer-ho malament. Quina alegria, el rotllo d'existir. No li calen claus al vent, ningú li diu qui ha de ser. Què passaria si ho tornés a viure tot? Tornaria a fer-ho igual, tornaria a ser qui sóc. Yeah, 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 yeah. No entenem més tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferida. A tope amb la vi, a tope amb la vi, amb la vi vivida. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferida. Cantarem sota la pluja, el que visc és el que dura, el que ens fa mal és el que ens cura. Si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja, el que visc és el que dura, el que ens fa mal és el que ens cura.
Educación y ciudadanía desde el enfoque de las epistemologías del sur. Cuando hablamos de educación y ciudadanía, no podemos olvidar la importancia de conocer e integrar saberes y experiencias. Se aborda el tema del encuentro con la otredad, profundizando en la necesidad de descolonizar el saber y el ser para ampliar las posibilidades de diálogo y entendimiento entre culturas. Un intercambio necesario para comprender la complejidad del mundo actual y fomentar la formación integral de las personas a través de los valores de respeto, cuidado, no violencia y buen vivir. Desde el punto de vista de las epistemologías del sur, la comprensión que la humanidad tiene sobre sí misma es más amplia que la comprensión que el pensamiento eurocéntrico tiene sobre la realidad. Por este motivo, se presentan como una herramienta capaz de reconocer y validar otros procesos de producción de conocimiento que se basan en las experiencias de resistencias vividas por los pueblos y colectivos víctimas de los sistemas de opresión capitalista, colonialista y patriarcal. Se reconoce un sur como espacio epistemológico diversificado y no geográfico, habitado por diversos colectivos que comparten el hecho de resistir contra las injusticias existentes, tanto en el norte como en el sur global, con la intención de rescatar experiencias, conocimientos y formas otras de ser y vivir en el mundo. Se desafía así el pensamiento hegemónico, tratando de rescatar sujetos colectivos ausentes e invisibilizados como consecuencia de relaciones de poder desigual. Frente a las monoculturas, se proponen lecturas del mundo y de la realidad basadas en la ecología de saberes, partiendo del presupuesto que las relaciones que los seres humanos tienen entre sí y con la naturaleza siempre implican diferentes tipos de conocimientos. Se propone así un reconocimiento a la diversidad, buscando emplear el conocimiento científico en contextos de diálogo con otros conocimientos, con el objetivo de promover la interdependencia entre estos, fortaleciendo los procesos de transformación social, como nos cuenta Santos. A través del diálogo reflexivo y participativo se desarrolla una ecología de saberes que nos permite reconocer las percepciones, las opiniones y los sentimientos de las personas, además de tomar conciencia de la diversidad epistémica existente en el mundo. Se introducen saberes e ideas de movimientos sociales que entran en tensión dialógica con los conocimientos de todos aquellos agentes, colectivos, individuos, grupos que están implicados en la relación entre educación y ciudadanía, permitiendo ampliar las percepciones sobre las posibilidades de enriquecimiento mutuo. Se necesita así conocer y valorar los diferentes saberes, reconocer el pluralismo cultural como un recurso rico y estimulante en el crecimiento de la sociedad civil, dar valor a las similitudes y diferencias, viviéndolas como oportunidades, fomentar la capacidad de reflexionar sobre la realidad a través de esquemas mentales flexibles. Nos encontramos en un momento histórico en el que se percibe un sentimiento urgente y compartido por enfrentar las crisis económica, ambiental y cultural que en las últimas décadas han causado las políticas dominantes. Sin embargo, y de forma paradójica, la solución a estos problemas comunes exigen cambios profundos en las raíces de nuestra civilización. Por este motivo, consideramos importante reflexionar y profundizar sobre las cuestiones relativas a la descolonización del saber, presentar aquellas ausencias e invisibilidades, consecuencias de relaciones desiguales de poder, que nos pueden ayudar a dotar de mayor profundidad la relación entre ciudadanía y educación, entendida como formación integral de las personas y de las sociedades. Sustentar nuestro ser y hacer en el aula con una diversa epistemología significa reconocer en todos los ámbitos aquellos sujetos portadores de sabiduría nacida y utilizada en procesos de liberación, cuestionando los patrones de poder que implican la inferiorización y subalternización de las personas racializadas como resultado de los procesos de colonización, desigualdades y exclusiones que hoy perduran en nuestras sociedades. No se trata de reconocer y discutir las diferencias entre culturas y grupos oprimidos, sino de crear otras formas y maneras de pensar y luchar, de aprender y enseñar, de ser y vivir, que nos permitan, partiendo de una educación más rica y creativa, reflexionar, profundizar, analizar y, en definitiva, luchar contra los sistemas de opresión actuales. Oh,
Éducation et citoyenneté à partir de l'approche des épistémologies du Sud. Lorsque nous parlons d'éducation et de citoyenneté, nous ne pouvons oublier l'importance de la connaissance et de l'intégration des connaissances et des expériences. Le thème de la rencontre avec l'altérité est abordé en approfondissant la nécessité de décoloniser le savoir et l'être afin d'élargir les possibilités de dialogue et de compréhension entre les cultures. Un échange nécessaire pour comprendre la complexité du monde d'aujourd'hui est promouvoir la formation intégrale des personnes à travers les valeurs de respect, d'attention, de non-violence et de bon vivre. Du point de vue des épistémologies du Sud, la compréhension que l'humanité a d'elle-même est plus large que la compréhension que la pensée eurocentrique a de la réalité. Pour cette raison, ils sont présentés comme inutiles, capables de reconnaître et de valider d'autres processus de production de connaissances qui se fondent sur les expériences de résistance vécues par les peuples et les collectifs victimes des systèmes d'oppression capitaliste, colonialiste et patriarcaux. Le Sud est reconnu comme un espace épistémologique et non géographique diversifié, habité par des collectifs variés qui partagent le fait de résister aux injustices existantes dans le Nord ainsi que dans le Sud global, dans l'intention de s'ouvrir des expériences, des connaissances et d'autres manières d'être et de vivre dans le monde, elle remet en question la pensée hégémonique en essayant de s'ouvrir les sujets collectifs absents et les invisibilités qui sont la conséquence de relations de pouvoir inégales. Face aux monocultures, nous proposons des lectures du monde et de la réalité fondées sur l'écologie de la connaissance en partant du principe que les relations que les êtres humains entretiennent entre eux et avec la nature impliquent toujours différents types de connaissances. Ainsi, une reconnaissance de la diversité est proposée en cherchant à utiliser les connaissances scientifiques dans des contextes de dialogue avec d'autres connaissances, dans le but de promouvoir l'interdépendance entre elles en renforçant les processus de transformation sociale. Grâce au dialogue réflexif et participatif, on développe une écologie de la connaissance qui permet de reconnaître les perceptions, les opinions et les sentiments des personnes, en plus de prendre conscience de la diversité épistémique existant dans le monde. Il introduit les connaissances et les idées de mouvements sociaux qui entrent en tension dialogique avec les connaissances de tous ces agents collectifs, individus, groupes qui sont impliqués dans la relation entre l'éducation et la citoyenneté. Permettre d'élargir les perceptions sur les possibilités d'enrichissement mutuel. Il est nécessaire de connaître et valoriser les différentes formes de savoir, reconnaître le pluralisme culturel comme une ressource riche et stimulante pour la croissance de la société civile, donner de la valeur aux similitudes et aux différences en les vivant comme des opportunités, favoriser la capacité à réfléchir sur la réalité à travers des schémas mentaux flexibles. Nous nous trouvons dans un moment historique où il existe un sentiment d'urgence partagé pour faire face aux crises économiques, environnementales et culturelles qui ont été causées ces dernières décennies par les politiques dominantes. Cependant, et paradoxalement, la solution à ces problèmes communs exige des changements profonds dans les racines de notre civilisation. Pour cette raison, nous considérons qu'il est important de réfléchir et d'approfondir les questions liées à la décolonisation de la connaissance, de présenter ses absences et invisibilités, conséquences des relations de pouvoir inégales qui peuvent nous aider à donner plus de profondeur à la relation entre la citoyenneté et l'éducation, comprise comme la formation intégrale des personnes et des sociétés. Soutenir notre être et notre faire dans la salle des classes avec une épistémologie diversifiée signifie reconnaître dans tous les domaines les sujets qui sont porteurs d'une sagesse née et utilisée dans les processus de libération en remettant en question le modèle de pouvoir qui implique l'infériorisation et la subalternisation des personnes racialisées en raison des processus de colonisation, des inégalités et des exclusions qui persistent aujourd'hui dans nos sociétés. Il ne s'agit pas de reconnaître et de discuter les différences entre les cultures et les groupes opprimés, mais de créer d'autres formes et manières de penser et de lutter, d'apprendre et d'enseigner, d'être et de vivre, qui nous permettent, à partir d'une éducation plus riche et plus créative, de réfléchir, d'approfondir, d'analyser et finalement de lutter contre les systèmes d'oppression actuels.
Que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
El diccionario de la RAE define civismo como aquel comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública. Bajo esta definición, las pautas de comportamiento cívico deberían garantizar la convivencia de los ciudadanos, la libertad de estos dentro del límite del respeto de los demás, y asumir la conservación del patrimonio urbano y natural y de todos los bienes en conjunto. Por tanto, es un concepto que trasciende las simples reglas de cortesía y de buenos modales que se han ido generando en una época histórica y cultura determinada, sino que entendemos el civismo como una cualidad que denota a la ciudadanía que es consciente de sus derechos y deberes, libre, crítica, responsable, participativa y solidaria. Vemos que uno de los puntos a los que se refiere dicho término se relaciona con la conservación del patrimonio natural, haciéndose presente una relación clara entre civismo y ecología en cuanto al estudio de las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Por lo general, entendemos que el civismo parte de la educación. Es necesario saber qué es lo que se debe respetar y por qué, ya que quien conoce las normas de convivencia y comprende que transgredirlas provoca un daño, es probable que actúe con civismo. Pero en la actualidad vemos cómo la educación que estamos recibiendo, sea por la causa que sea, no está dando los frutos esperados. Por una parte, los ciudadanos, a nivel particular, parecen mostrar poco respeto, conciencia y sensibilización por el medio que los rodea y su conservación. Por otra, dentro del marco capitalista occidental mercantilizado que tiende a convertir a los ciudadanos y ciudadanas en simples consumidores y en meros objetos de consumo, la atención a la conservación del medio por parte de las grandes empresas es escasa, y como la sociedad no está debidamente concienciada sobre las repercusiones, no se denuncia ni persiguen estas ecoagresiones como formas de atentado a la vida del planeta. En este contexto, el concepto de desarrollo enmascara los intereses económicos, pero desde el sur nos invitan a pensar. Cuando nos venden la idea de desarrollo como camino necesario y beneficioso para el pueblo, ¿verdaderamente lo es? Este desarrollo viene de la mano de la pérdida de los recursos naturales del territorio, la pobreza y la represión, ignorando cualquier derecho de los ciudadanos a su tierra. Y no hablamos de tierra en cuanto a propiedad privada, sino como el recurso sin el cual la vida humana, en definitiva, no puede darse. Por tanto, vemos que no solo está fallando la educación cívica del individuo particular, sino que el modelo neocapitalista financiero occidental tampoco se ampara dentro de las características del civismo, ya que no se puede decir que sea un modelo consciente de los derechos y deberes de la ciudadanía, libre de intereses, crítico, responsable, participativo y solidario. Por todos estos motivos, creemos en la imperante necesidad de educar de manera exhaustiva en la responsabilidad, el cuidado y la protección del medio ambiente, ya que este es, en definitiva, el recurso más valioso al que podemos acceder. Necesitamos de la participación de los centros educativos, la familia, las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, en la tarea de recuperar los valores personales y sociales, rescatar y proteger nuestro hábitat, respetar los espacios comunes y el patrimonio natural, ya que respetar dichos espacios es entender y marchar hacia la sostenibilidad, compartiendo el proyecto de construir entre todos el mejor lugar para vivir. Apostar por el civismo ecológico es tener como herramientas normas básicas de comportamiento en los espacios públicos rurales o urbanos para corregir actitudes y comportamientos negligentes e irresponsables. Con el objetivo de transformar esta realidad y conseguir estos objetivos, desde muchos centros educativos y asociaciones vecinales se impulsan propuestas que pretenden incluir la ecología en los programas educativos, subsanando la falta de legislación específica en este ámbito dentro del currículo académico. Una de las iniciativas que más éxito y resultados están teniendo es la creación dentro de los centros de espacios dedicados a huertos urbanos, ya que se trata de una herramienta didáctica que permite poner un gran número de competencias y disciplinas a la vez. Impulsan valores como la paciencia, la responsabilidad, el compromiso, el compañerismo y el esfuerzo. Los niños y niñas adquirirán respeto por el trabajo de los agricultores y agricultoras, y el hecho de cultivar su propia comida les hace mucha ilusión, y al conseguirlo se sienten más satisfechos y seguros de sí mismos. Potencian un trabajo colaborativo y cooperativo. Promueven el conocimiento de los productos autóctonos y la época en la que cada uno de estos productos se puede disfrutar, la cual cosa puede ayudar a introducir críticas al actual mercado alimentario. Favorecen una alimentación saludable y equilibrada. Los alimentos que se cosechan se utilizarán a posteriori para realizar sus propios menús. Se fomenta la participación de las familias. Se estimulan sus sentidos, ya que aprenden tocando, oliendo, viendo y saboreando. Es aplicar lo que han leído en los libros y pueden observar de primera mano cómo se desarrollan los procesos naturales. Finalmente, y relacionado con nuestro tema central del civismo y la protección del medio, los huertos fomentan el cuidado y el respeto del medio ambiente, ya que al ser una actividad que implica interactuar con la tierra y plantas, los pequeños y pequeñas aprenderán la importancia de respetar y hacer respetar el medio ambiente y la naturaleza. Si cada ciudadano realiza acciones, por pequeñas que sean, para vivir mejor, está ejerciendo su derecho cívico y ecológico, no como favor individual, sino en beneficio de la comunidad y el medio ambiente, porque sin duda colabora para mejorar su hábitat y calidad de vida. Solo tenemos un planeta para vivir y parte de la sociedad se ha dedicado a destruirlo con el pretexto del progreso y la modernidad, sin pensar que además de ser nuestro presente, es el legado para las futuras generaciones.
Por ello necesitamos cambiar el paradigma drásticamente y conseguir que dicho progreso esté en armonía con nuestro planeta, ya que todos somos naturaleza.
Volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados.
Le dictionnaire de l'Académie royale de la langue espagnole définit le mot civisme comme le comportement respectueux du citoyen aux normes de la vie publique. Sous cette définition, les modèles de comportement civique devraient garantir la cooptation des citoyens, leur liberté dans la limite du respect envers autrui et assumer la conservation du patrimoine urbain et naturel et de tous les biens dans leur ensemble. Il s'agit donc d'un concept qui dépasse les simples règles de courtoisie et de bonnes manières qui se sont développées à une époque historique et culturelle donnée, mais qui considère le civisme comme une qualité qui dénote la citoyenneté consciente de ses droits et de ses devoirs, libre, critique, responsable, participative et solidaire. Nous voyons que l'un des points auxquels ce terme fait référence est lié à la conservation du patrimoine naturel en faisant apparaître une relation claire entre civisme et écologie quant à l'étude des relations des êtres vivants entre eux et avec le milieu où ils habitent. Généralement, nous comprenons que le civisme fait partie de l'éducation. Il faut savoir ce qu'il faut respecter et pourquoi. Puisque celui qui connaît les règles de convivialité et comprend que les transgresser provoque un dommage est susceptible d'agir avec civisme. Mais actuellement, nous voyons comment l'éducation que nous recevons, quelle qu'en soit la cause, ne produit pas les résultats escomptés. D'une part, le citoyen particulièrement semble montrer peu de respect, de conscience et de sensibilité par l'environnement qui les entoure et sa conservation. D'autre part, dans les quatre capitalistes occidentaux mercantilisés qui tendent à faire des citoyens des simples consommateurs et de simples objets de consommation, l'attention portée à la conservation du milieu de la part des grandes entreprises est rare. Et comme la société n'est pas suffisamment consciente des répercussions, ces agressions ne sont pas dénoncées et poursuivies comme des formes d'attente à la vie de la planète. Dans ces contextes, le concept de développement masque les intérêts économiques, mais d'ici, il nous invite à réfléchir. Quand il nous vend l'idée de développement comme une voie nécessaire et bénéfique pour le peuple, l'est-elle vraiment ? Ce développement est accompagné de la perte des ressources naturelles du territoire, la pauvreté et la répression en ignorant quelques droits des citoyens à sa terre. Et nous ne parlons pas des terres quant à propriété privée, mais les ressources sont lesquelles la vie humaine ne peut pas se produire. Nous constatons donc que non seulement l'éducation civique de l'individu est défaillante, mais que le modèle néo-capitaliste financier occidental n'est pas non plus protégé par les caractéristiques du civisme, puisqu'on ne peut pas dire qu'il soit un modèle conscient des droits et devoirs de la citoyenneté, libre d'intérêt, critique, responsable, participatif et solidaire. Pour toutes ces raisons, nous croyons en la nécessité impérieuse d'une éducation globale à la responsabilité, aux soins et à la protection de l'environnement, car c'est en définitive la ressource la plus précieuse à laquelle nous pouvons accéder. Nous avons besoin de la participation des centres éducatifs, des familles, des organisations de la société civile et de la population en général, afin de récupérer les valeurs personnelles et sociales, de sauver et de protéger notre habitat, respecter les espaces communs et le patrimoine naturel. Car respecter ces espaces, c'est comprendre et marcher vers la durabilité en partageant le projet de construire entre tous le meilleur endroit pour vivre. Miser sur les civismes écologiques, c'est avoir comme outil normes de comportement de base dans les espaces publics ruraux ou urbains pour corriger des attitudes et des comportements négligents et irresponsables. Dans le but de transformer cette réalité, de nombreux centres éducatifs et associations de quartier proposent d'inclure l'écologie dans les programmes éducatifs en palliant l'absence de législation spécifique dans ces domaines dans les programmes scolaires. L'une des initiatives les plus réussies et les plus fructueuses est la création, au sein des centres, d'espaces consacrés au potager urbain, car il s'agit d'un outil didactique qui permet de mettre en pratique un grand nombre de compétences et de disciplines à la fois. Elles promeuvent des valeurs telles que la patience, la responsabilité, l'engagement, la camaraderie, l'effort. Elles acquéreront le respect pour le travail des agriculteurs et le fait de cultiver leur propre nourriture leur fait grand plaisir. Ils se sentent plus satisfaits et plus confiants. Renforcer le travail collaboratif et coopératif. Promouvoir la connaissance des produits autochtones et l'époque à laquelle chacun de ces produits peut être apprécié, ce qui peut aider à introduire des critiques sur les marchés alimentaires actuels. Favorise une alimentation saine et équilibrée. Les aliments qu'ils récoltent seront utilisés a posteriori pour réaliser leur propre menu. La participation des familles est encouragée. Ils se stimulent leur sang, car ils apprennent en touchant, en sentant, en regardant et en savourant, c'est-à-dire qu'ils apprennent par stimulation sensorielle tout en s'amusant. Ils peuvent appliquer ce qu'ils ont lu dans les livres et ils peuvent observer de première main comment les processus naturels se déroulent. Finalement, et en relation avec notre thème central du civisme et de la protection de l'environnement, les potagers encouragent le soin et le respect de l'environnement car en étant une activité qui implique d'interagir avec la terre et les plantes, les petits apprendront l'importance de respecter et de faire respecter l'environnement et la nature. Si chaque citoyen entreprend des actions de petite envergure pour mieux vivre, il exerce son droit civique et écologique non pas comme une faveur individuelle, mais au bénéfice de la communauté et de l'environnement, parce qu'il collabore certainement pour améliorer son habitat et sa qualité de vie. Nous n'avons qu'une planète à vivre et une partie de la société s'est consacrée à la détruire sous prétexte de progrès et de modernité sans penser qu'en plus d'être notre présent, il est l'héritage pour les générations futures. C'est pourquoi nous devons changer radicalement le paradigme et faire en sorte que ces progrès soient en harmonie avec notre planète, car nous sommes tous nature. Si algun dia et perds, segur que et serveix.